Voilà, je me réjouis beaucoup de ce temps de communion fraternelle, ce temps béni de chants, de louanges, de la parole. Ça fait du bien de se réunir, n'est-ce pas? Vraiment. Et je rends grâce à Dieu pour le privilège que j'ai d'être au milieu de vous ce matin. Je voyage dans beaucoup de pays, je visite beaucoup d'églises, mais chaque église est une église qui nous bénit et c'est une grâce de pouvoir avoir cette liberté encore de se rassembler. Voilà, je lisais une fois dans une petite Bible anglaise un texte dans Josué, un texte qu'on connaît bien, normalement oui, dans Josué 8, c'est lorsque le peuple qui a déjà commencé la conquête de la terre promise, ils ont vécu ces grandes puissances qui ont été rappelées ce matin dans le psaume 136. Et de temps en temps, après les grandes victoires comme à Jéricho, eh bien, le peuple s'est retrouvé sur le mont Ébal. Et là, ils ont dressé un autel, et un autel, vous savez, avec ces pierres, sans que le fer aille passer sur ces pierres, on peut imaginer un autel construit selon les règles du Jura, où on a ces murs en pierre sèche, n'est-ce pas, qui s'imbriquent les unes dans les autres ou dans d'autres pays. Et puis, là, il loue l'Éternel pour sa parole, et je veux lire avec vous quelques paroles de ce passage ici dans Josué 8, autel sur le mont Ébal, depuis le verset 30. « Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, selon ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, avait ordonné aux Israélites. » Comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, un autel de pierre brute sur lesquels on n'avait pas brandi le fer. Ils y présentèrent des holocaustes à l'Éternel et offrirent des sacrifices de communion. Et là, il écrivit sur les pierres un double de la loi que Moïse avait écrite en présence de tous les Israélites. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges, se tenaient de part et d'autre de l'arche, les étrangers aussi, comme les nationaux, en face des sacrificateurs lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel, moitié du côté du mont Garizim et moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre de Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël en premier lieu. Ensuite, Josué proclama toutes les paroles de la loi, la bénédiction et la malédiction, selon tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il ne resta pas une seule parole de tout ce que Moïse avait prescrit, que Josué ne proclama en présence de toute l'assemblée d'Israël, ainsi que des femmes, des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. » C'est absolument grandiose, n'est-ce pas? On voit un petit peu le tableau de ce peuple extrêmement nombreux qui était là et qui dresse un autel. Et puis, il y a les tribus qui sont là avec leurs drapeaux, il y a les officiers, il y a les prêtres. Enfin, c'est vraiment une cérémonie grandiose, un peu comme on a vécu dans ces années passées, par exemple, le jour du Christ à Bâle ou à Berne, vous voyez, ou à Bâle, vous vous souvenez peut-être, il y avait les drapeaux de tous les cantons de la Suisse. Et donc, on voit cette scène-là magnifique. Et dans ma petite Bible anglaise, sur la même page, c'est, chez moi, c'est la page d'après, mais arrive ce terrible épisode des Gabaonites. C'est juste après. C'est-à-dire que les Gabaonites, c'était une très grande ville fortifiée, et Josué avait l'ordre de détruire cette ville aussi. Je sais que c'est extrêmement choquant de parler de choses comme ça aujourd'hui. D'ailleurs, on accuse les chrétiens de dire, voilà, vous avez pratiqué des génocides. Oui, c'est vrai, osons le dire. Mais la différence près, c'est qu'Israël n'avait pas le but de conquérir militairement le monde, jamais, ce qu'aucun peuple puissant n'a fait dans un sens, et Dieu voulait, vous le savez, une terre sainte. Dieu voulait un espace dans notre monde où il y aurait uniquement Dieu comme roi, où tout l'occultisme, on sacrifiait les enfants. Il ne faut pas oublier qu'en ce temps-là, ces peuples sacrifiaient leurs enfants à toutes sortes de divinités. Et Dieu voulait créer un peuple messie qui était purifié de tous ces péchés, purifié de toutes ces pratiques terrifiantes. Donc, c'était le plan de Dieu qui voulait vraiment établir un peuple qui lui obéisse et un peuple qui devienne un peuple messie, c'est-à-dire un peuple qui rayonnerait dans le monde. Et on sait que ça s'est passé avec la reine de Saba quand elle est arrivée à Jérusalem en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Et on peut imaginer que s'ils étaient restés fidèles, les nations seraient montées en Israël pour apprendre à connaître l'Éternel et à suivre les principes et la loi de Moïse. Eh bien voilà que des étrangers arrivent, ils se sont déguisés, ils étaient avec des habits tout déchirés, froissés, ils avaient dans leur sac du pain qui était sec, des vivres qui étaient... Et ils disaient, nous venons de très très loin et nous vous demandons la grâce, est-ce qu'on pourrait vivre au milieu de vous, nous serions tellement reconnaissants. Et il est dit dans Josué 9, au verset 14, « On prit de leurs provisions sans avoir consulté l'Éternel. Josué fit la paix et conclut une alliance avec eux en leur garantissant la vie et les princes de la communauté leur en firent le serment. » Moi, j'étais bouleversé. J'avais déjà lu ces passages, bien sûr, certainement, plusieurs fois. Mais vous savez, quand l'Esprit Saint nous parle d'une manière particulière, et là, c'était encore plus frappant parce que dans cette petite Bible anglaise, c'était sur la même page, vous comprenez? Donc vous aviez à gauche la grande cérémonie où on loue l'Éternel pour sa parole, on proclame sa fidélité, on a un autel merveilleux, c'est tout est en place, vous voyez? On pourrait dire on a un très beau bâtiment, on a des anciens, des pasteurs, on a des caissiers, on a tout ce qu'il faut, des beaux cantiques. Je suis pas en train de vous critiquer, hein, vous comprenez, parce que c'est nécessaire. On n'est pas, j'allais dire hélas, dans cette chère Afrique que j'aime tant, où on peut encore célébrer sous un arbre, au soleil, à l'ombre. J'ai vécu si souvent des cultes absolument merveilleux dans la nature, près des villages, et les gens s'arrêtaient pour écouter. Et voilà. Mais, quel choc quand tout à coup, juste après avoir célébré, proclamé la fidélité de Dieu, rappeler toute la loi de Moïse, avoir même encore gravé cette loi sur des pierres comme pour rappeler la grande puissance de Dieu qui s'est manifestée non seulement dans la sortie d'Égypte, mais aussi au Sinaï en gravant sa loi dans la pierre. Et là, ils ne consultent pas l'Éternel et ça va donner des problèmes gigantesques à Israël. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et là, j'ai pris le psaume 106 parce que dans ces mêmes jours, je préparais des enseignements pour une école biblique et je devais enseigner sur les psaumes. Et dans le psaume 106, on trouve la même chose. Au psaume 106, alors il y a un rappel, comme on l'a fait ce matin, de tous les hauts faits de l'Éternel, y compris la sortie d'Égypte. Et puis tout à coup, il est dit au verset 12 du psaume 106, « Ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges, mais ils se hâtèrent d'oublier ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de son dessein. » Et à la fin de ce psaume, c'est un des passages les plus tragiques de tout l'Ancien Testament, car il est dit « Ils se mêlèrent avec les nations, ils apprirent à imiter leurs œuvres, ils rendirent un culte à leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons, ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. » Et vous savez qui a créé l'autel sur lequel on a sacrifié les enfants? C'est Salomon. Il est dit très clairement, Salomon, pour faire plaisir à ses femmes étrangères, a fait construire un autel, et c'est sur cet autel que, bien des années plus tard, on a sacrifié des enfants. Et cela doit, pour moi, c'est un choc. Et ça veut dire que nous pouvons croire à la parole de Dieu. Nous pouvons dire, c'est la parole de Dieu. La parole qui ne se trompe pas, qui est inhérente, comme on dit, qui n'a pas d'erreur. Dire, l'Éternel est Dieu, il a ses hauts faits, comme on l'a rappelé ce matin. On peut chanter des cantiques, on peut aller à l'église, on peut prier. Et tout à coup, dans la vie quotidienne, dans la vie de chaque jour, parfois dès le retour à la maison ou dès le lundi matin, on passe à autre chose et on ne consulte pas l'Éternel à l'heure de prendre une décision importante, à l'heure de faire quelque chose. Et cela crée, comme on appelle, une dichotomie en nous, c'est-à-dire qu'il y a la vie spirituelle où là on se réjouit, c'est formidable, et puis il y a la vie quotidienne où là on prie un peu, on chante un peu des cantiques, pourquoi pas, mais on ne consulte pas sérieusement le Seigneur. J'enseignais vendredi et samedi à Berne, et le thème c'était l'hygiène de vie. C'est intéressant qu'on nous demande des thèmes comme cela dans une école de vie, école biblique, l'hygiène de vie et la sexualité. Alors, bien sûr que sous hygiène de vie, ils avaient bien précisé que ça concernait la vie du disciple. Et j'avais enseigné il y a quelques années dans cette même école, le thème c'était le disciple. Mais ils ont élargi avec ce thème magnifique, hygiène de vie. Alors, dans un grand tableau, j'ai commencé, si on avait le temps, on ferait l'exercice ce matin, mais j'ai commencé par dire, donnez-moi les caractéristiques du disciple. Alors, j'ai entendu le mot fidélité, le mot zèle, vie de sacrifice, obéissance, c'est formidable, n'est-ce pas? C'est des bons disciples. Et l'amour à soi-même, on peut pas mieux, hein, comme disciple, de dire, voilà, on doit mourir à soi-même. L'amour, la confiance, la discipline, la pratiquer la parole, servir les uns les autres, se laisser corriger, être un modèle. Oh, ça a de l'allure, n'est-ce pas? Ça, c'est des bons disciples, c'est vrai. Rien à redire. Et après, j'ai dit, maintenant, on va faire une autre colonne. Là, on a fait la colonne de gauche. Et de l'autre côté du tableau, on va mettre, alors, qu'est-ce qui concerne l'hygiène de vie? Non pas la chaîne de vie, mais l'hygiène de vie. Alors là, j'ai entendu sommeil, alimentation, hygiène corporelle, relations sociales, entretien du corps, le sport, la famille civile, la famille de Dieu, attention aux addictions, télévision, jeux, internet, alcool, tabac, bien sûr, drogue, plutôt d'un coup le travail qui arrive, et puis l'ordre. Ils se sont dit, tiens, c'est peut-être intéressant d'avoir de l'ordre dans son bureau, puis peut-être à la cave, les loisirs, l'entretien général. Je n'ai rien vu sur l'argent. Il n'y a pas un qui l'a mentionné. Rien vu sur la sexualité, alors que c'était le thème, justement, de ses enseignements. Mais j'aurais dit, vous voyez, vous êtes terrible. Parce que la vie de disciple comprend toutes ces choses. Pourquoi seulement, j'aurais dit, vous êtes très spirituel, bravo, c'est magnifique, vous félicite. Mais bon sang, est-ce que la vie de disciple ne concerne pas aussi le sommeil, le travail, les loisirs, l'ordre, la famille, toutes ces choses, les loisirs? Mais il faut reconnaître que peut-être pour certains, ça les arrange bien. Et que je reviens à notre Josué, voyez, il y a un temps où on célèbre, c'est formidable, c'est merveilleux, on touche pas à un iota de la parole de Dieu. Et puis après, il y a notre vie, le travail, les loisirs, la famille, et tout cela. Et puis, subtilement, on fait cette terrible séparation. Et c'est un risque, parce que l'Écriture dit, quoi que vous fassiez, faites tout comme pour le Seigneur. Et moi, j'ai des fois l'impression que c'est parce que nous avons trop séparé entre ce qui est saint et ce qui est profane, comme on dit, entre ce qui est spirituel et ce qui est séculier. Vous voyez, on parle du monde séculier, mais ça c'est une invention du monde catholique, entre autres, et qui a été en partie repris par la Réformation, en partie, c'est-à-dire qu'il y a le monde spirituel et le monde séculier. Mais ça ne veut rien dire. Du point de vue d'être disciple du Seigneur, ça ne veut rien dire. On n'a pas un temps comme ce matin, qui est un temps spirituel, et puis dès la sortie de la chapelle et de l'église, vous entrez dans le monde séculier. Bien sûr, on est envoyé dans un monde difficile, ça on est d'accord, c'est un autre texte de l'Écriture, mais il n'y a pas de monde séculier pour le chrétien, il n'y a pas de monde séculier pour le disciple. Et je vous l'ai dit une fois ici, arrêtons de dire « il travaille à plein temps pour le Seigneur ». Ça veut dire quoi? Mais ça veut rien dire. Ça veut dire que nous, on est à temps partiel. Et peut-être que ça arrange des personnes d'être à temps partiel pour le Seigneur. Ça veut dire qu'ils ont un temps avec lui le dimanche matin, puis après, c'est leur temps à eux. Nous sommes tous à plein temps pour le Seigneur. Et j'ai envie de dire, notre monde a besoin de travailleurs qui sont à plein temps pour le Seigneur, mais vous comprenez, ce n'est pas des pasteurs ou des missionnaires, parce que nous le sommes tous missionnaires. Ça veut dire qu'on devrait conduire son travail dès le lundi matin en tant que disciple du Seigneur, en priant pour son travail, en incluant la vie spirituelle, le Seigneur, dans tout ce que l'on fait, y compris les loisirs aussi, chers amis. Vivez des loisirs avec le Seigneur, ou alors n'en faites pas. Que le Seigneur soit avec vous dans tout ce que vous faites, ou alors ne le faites pas. C'est notre monde qui a séparé entre le spirituel et le séculier. Et je peux vous le dire, pasteur à Saint-Blaise, durant 24 ans, j'ai vu des personnes être extrêmement choquées. Elle venait deux fois par année à l'église, mais quand on a introduit une première fois une guitare, j'ai entendu des critiques de ces personnes qui venaient deux fois, dont certaines elles venaient juste avant les élections, dire « Quoi ? On met une guitare dans l'église, voyez ? Est-ce qu'on amène le monde maintenant alors qu'il venait jamais ?» Et je me souviens aussi une fois, c'était avant le 1er août, et là, il y avait un orchestre villageois qui se préparait. Non, c'est pas vrai. C'était le fameux 3 février qui est la fête de Saint-Blaise, qui se fait dignement avec les autorités neuchâteloises, parce que beaucoup habitaient Saint-Blaise, et c'est là qu'on reçoit ceux qui ont 18 ans. Et j'entre un soir au temple, et l'orchestre répétait. trompettes, je sais pas, ils avaient différents instruments, et ils avaient mis leur bière sur la table de communion. Alors, j'arrive et je vois le trompettiste, il prend sa bière et puis il la met derrière lui. J'ai dit, écoute, est-ce que c'est un péché de boire une bière? Alors il a réfléchi un petit moment, il a dit non. J'ai dit, pourquoi tu n'as pas cette liberté dans l'église de boire une bière? J'espère que vous ne choque pas trop. Mais j'ai ajouté ceci. Soit quelque chose est un péché, mais c'est un péché dans l'église et c'est un péché en dehors de l'église. Donc si c'est un péché en dehors de l'église, on ne l'amène pas dans l'église. Mais si ce n'est pas, alors on ne va pas faire la fête de la bière à l'intérieur d'une église, vous comprenez? Mais ça veut dire que notre société a privilégié des lieux. Ça, c'est le lieu saint. Sous-entendu, moi, je vis dans le séculier. Et c'est ce qu'on trouve dans tout ce passage de Josué, mais aussi dans ce passage des psaumes au psaume 106. Alors, je me dis, mais comment changer ces choses? Que faut-il faire? Et vous savez, quand un enfant a un peu de peine en mathématiques, quand il arrive, par exemple, à l'école secondaire, ou bien dans un temps pour un métier, et puis il a un peu de peine, et qu'est-ce qu'on dit? On dit, il faudrait revoir les bases. Il manque les bases. On pourrait dire aussi des fois la même chose en français, quand il manque les bases de l'accord du fameux participe passé, n'est-ce pas? C'est pas tout simple. Ceci dit, on peut vivre en faisant des fautes d'orthographe, on est d'accord. Les fautes de calcul sont un peu plus compliquées, surtout au niveau des impôts. Mais on dit volontiers, il faudrait revoir les bases. Et on dit aussi d'un bâtiment, il faudrait retravailler les fondements, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et là, j'ai pensé, quels sont nos fondements? Et le mot commencement est arrivé. Quels sont les commencements? Vous voyez, comment les choses ont commencé? Parce que si on veut revenir à cette foi vivante, cette foi qui fait qu'on ne fait pas de différence entre des moments difficiles dans la vie où on consulte le Seigneur, où on ne fait pas de différence entre le saint et le profane, entre le sacré et le profane et le monde séculier. Revenons au commencement. Il y a trois commencements dans l'Écriture. Il y a au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et tous les commencements fondamentaux de la famille, du couple, de la relation sexuelle, des vêtements, de la manière de célébrer l'Éternel, tout cela, la manière de vivre ensemble, nous le trouvons dans ces commencements de la Genèse. Et là, vous m'avez déjà entendu sur ce sujet, mais il y a trop de chrétiens qui ne croient plus à ce commencement. C'est-à-dire qu'ils sont évolutionnistes. Ils ne croient plus que Dieu a créé en 6 jours. Ils ont plié un genou et 2 genoux devant certains scientifiques. Et donc ce commencement pour eux n'est plus un commencement. On sait que des scientifiques ont dit les ou tout, nous disent que c'est pas comme ça que le monde s'est formé. Et voilà déjà un premier fondement. Un premier commencement qui ne tient plus. Et c'est inimaginable. C'est comme si on disait c'est pas important quand on crée un bâtiment, les fondations c'est pas important. On va les laisser se faire toutes seules. Elles se feront toutes seules avec le temps. Il y a de l'eau, de la terre glaise, il y a du sable, il y a un peu tout ça. Il n'y a pas de problème. On peut construire. Avec le temps, ça va devenir des fondations solides. Non, c'est pas comme ça, chers amis. Est-ce qu'on peut mettre cette image que je t'ai demandé tout à l'heure? Je vous fais une courte pause publicitaire. Ça veut dire qu'un grand événement se prépare. Et je fais partie d'un groupe de scientifiques depuis plus de 10 ans. Nous sommes 50, 60 et de plusieurs pays, mais quand même pas mal de la France. Et nous avons eu des conférences dans le passé à Nyon, je vous en avais parlé. J'ai même donné des soirées au milieu de vous sur science et foi. Mais Dieu nous a dit, il y a plus d'une année, préparez un grand congrès. Et vous le préparez secrètement, parce qu'on va vous démolir de toutes parts, et en particulier de certains chrétiens évangéliques. Donc, on a préparé secrètement jusqu'au mois de mai, et on a fait venir M. Sanford. M. Sanford est un des biologistes les plus célèbres du monde. C'est lui qui a inventé le canon à gènes, c'est-à-dire tous pour modifier l'appareil génétique, c'est lui qui a trouvé comment le faire. C'est pour le meilleur et le pire. C'est comme l'énergie nucléaire, vous pouvez faire une bombe nucléaire, ou bien vous pouvez guérir des cancers, ou bien vous pouvez aller faire des IRM dans votre corps pour voir s'il n'y a pas une tumeur quelque part, et on en est reconnaissant, n'est-ce pas? Surtout quand il n'y en a pas. Eh bien, j'ai passé par tout cela cette année, j'ai eu un virus qui a attaqué mon cœur, et j'ai failli mourir plusieurs fois, et je bénis Dieu pour sa grâce, sa bonté. Ils m'ont posé un appareil, un défibrillateur, pacemaker. Je vais vivre jusqu'à 120 ans, c'est formidable. Je ne sais pas, le Seigneur est souverain. Mais c'est lui qui a permis qu'on puisse guérir des maladies génétiques, mais aussi faire des OGM. On peut discuter longtemps sur tout ça. C'est un homme très célèbre. Cet homme n'était pas chrétien. Il enseignait dans une des universités les plus célèbres en Amérique, l'université de Cornell. Mais il ne croyait plus à l'évolution. Comme scientifique de haut niveau, il n'y croyait plus. Mais il n'avait pas le courage de le dire. Parce qu'il savait une chose, le jour où je me lève contre l'évolution, on va me liquider de l'université. Mais il avait une épouse chrétienne. Oh, béni soit Dieu pour les épouses chrétiennes. L'histoire ecclésiastique est faite d'épouses chrétiennes ou de mamans chrétiennes. Saint Augustin, et puis aussi le premier empereur Constantin qui s'est converti au christianisme, c'est grâce à sa maman et à son épouse. Eh bien, sa femme a beaucoup prié, et un jour il s'est converti. Et il dit, je n'ai pas à ce moment-là décidé de croire que la Bible, que Dieu avait tout créé en 6 jours. Je croyais déjà qu'il fallait que tout ait dû être créé rapidement pour que tout fonctionne ensemble. Mais par la conversion, j'ai trouvé la foi et la force de tuer la vache sacrée des vaches sacrées. Voilà comme il s'est prononcé. Et il y a un livre qui va sortir en même temps que sa venue à Mulhouse. Il va donner 3 conférences. C'est un grand événement que cet homme vienne. C'est la première fois qu'il vient en Europe, je crois, enfin en Europe sous cet angle-là, au niveau de sa foi. Il va donner 3 conférences. C'est lui qui prêchera à Mulhouse le dimanche matin. Mais André Egon, c'est un homme mondialement connu qui est à la tête de tout ce qui est l'appareil génétique des bovins, des vaches. C'est lui qui a présidé en France avec l'INRA au séquençage des premières vaches. Un homme, mais parce qu'il était chrétien, parce qu'il s'est élevé contre l'évolution, on l'a viré de l'INRA. Voyez ça. André Egon, qui était directeur de recherche au centre nucléaire de Marcoule, comme physicien. Jean de Pontcharras, c'est un catholique, et ça pour moi c'est aussi un miracle. Que la porte ouverte chrétienne accepte que des conférenciers soient là, et des catholiques. Pourquoi? Parce que ces catholiques disent, et ils sont mondialement connus comme Jean de Pontcharras, qui a travaillé toute sa vie au CERN et dans des groupes de recherche aux États-Unis, cet homme Mesure maintenant les ossements de dinosaures qui ont du sang à l'intérieur et qui n'ont plus 60 millions d'années, c'est impossible. Ils ont quelques milliers d'années et il va nous dire ces choses. Et puis, Éric Lemaître est un grand spécialiste de ce qu'on appelle le transhumanisme. Il a écrit un livre pour dénoncer ce qui se passe aujourd'hui jusque dans nos écoles, c'est-à-dire le transgenre, il faut aider les enfants à découvrir s'ils ne sont pas homosexuels ou transsexuels, etc. Guy Berthaud, le suivant, il a révolutionné la sédimentologie mondiale, catholique aussi. Il a été décoré de la Légion d'honneur pour ses travaux. Et puis le suivant, ben, vous le connaissez, je donnerai la conférence le dimanche après-midi sur les fondements matérialistes, c'est-à-dire philosophiques, des théories de l'évolution et leurs conséquences théologiques et politiques, des conséquences extrêmement graves. Et ensuite, il y a encore un catholique qui est un homme exceptionnel, c'est Dominique Tassot. Il est à la fois ingénieur des mines, c'est un haut niveau en France, mais il est docteur en philosophie de la Sorbonne, il est agriculteur et ils ont 6 ou 7 enfants. Alors agriculteur, il a de l'aide, mais c'est un homme qui a un courage fou et qui a écrit des livres pour dénoncer le libéralisme dans l'Église catholique. Et il a osé dire dans ce livre, la congrégation scientifique de Rome, il n'y en a pas un qui croit en Dieu. Donc il est à la fois... Il parcourt le monde entier, mais il est rejeté aussi. J'ai beaucoup souffert de ce que certains théologiens évangéliques disent, l'évolution, c'est la seule possibilité de création parce que les scientifiques nous le disent. Et donc les 6 jours, c'est des millions d'années. Et ils ont dit, jusque-là, ceux qui disent le contraire ne sont pas scientifiques. Et c'est pourquoi on a voulu tenir secret un temps, pour qu'on ne soit pas démoli avant l'heure, aussi au niveau médiatique, parce que c'est terrible, et on a déjà cette expérience. C'est arrivé en Suisse romande. Vous savez que je travaille dans un doctorat contre une résolution du Conseil de l'Europe qui vise à interdire d'enseigner dans les écoles l'idée qu'il y aurait un créateur. Et ça, c'est pour les écoles publiques dans l'espace européen, mais suite à cette résolution, un parlementaire vaudois a dit, ouh, attention, nous devons contrôler dans les écoles privées et dans les écoles évangéliques, vous savez qu'il y a des écoles évangéliques, n'est-ce pas? On doit aller contrôler qu'est-ce qu'ils enseignent. Est-ce qu'ils enseignent aussi l'évolutionnisme? Parce que c'est obligatoire. Ils ont été déçus parce qu'effectivement, ils enseignent l'évolutionnisme, mais ils enseignent aussi le créationnisme. Et il est en train de faire voter une loi pour faire interdire dans une école chrétienne l'enseignement de la création selon la Genèse. Voilà où nous en sommes en Suisse, chers amis. Voilà où nous en sommes. Mais quand il y a eu ces débats en Suisse romande, il y a des pasteurs évangéliques, tenez-vous bien, et des professeurs de théologie évangéliques qui ont dit « Nous prenons totalement distance par rapport à ces créationnistes ». Nous sommes évolutionnistes. C'est dramatique, chers amis. C'est dramatique. Quel fondement? Alors, je vous laisserai... J'ai laissé un document, un dossier que tu auras sur ton ordinateur, qui est un dossier de publicité pour ce grand événement à Mulhouse. Et on peut faire un extrait d'une page A4, et puis vous pouvez mettre ça quelque part. J'ai une grande affiche ici, on verra plus tard. Voilà. Chers amis, si vous voulez détruire une maison, on le fait, vous savez, aujourd'hui, des fois, il faut liquider une tour qui n'est plus à la bonne place, ou bien un bâtiment qui est trop vieux. Comment est-ce qu'on le détruit? On met de petites charges. Là, aux endroits stratégiques, on met le feu et ça s'écroule, comme les tours du Trade Center à New York, n'est-ce pas? Vous avez tous vu, on a rappelé ces jours, puisqu'il y a un anniversaire, ces tours qui descendent sur elles-mêmes, avec des milliers et milliers de morts, bien sûr. Nous avons la preuve par A plus B que ceux qui ont commencé de mettre en doute les écrits de Moïse faisait partie de la franc-maçonnerie, ou faisait partie des libres penseurs, ou faisait partie des philosophes qui voulaient en finir avec la foi judéo-chrétienne. C'est eux qui ont créé toutes ces choses, et nous en avons des preuves. Donc, ce fondement-là, chers amis, s'il n'est plus en place dans votre vie, bien sûr qu'on nous prend pour des fois des pauvres personnes qui ne comprennent rien à rien, qui croient à une création en 6 jours. Eh bien, c'est comme ça. Faut-il que des scientifiques de niveau mondial viennent nous dire ces choses pour que peut-être des chrétiens puissent se dire « Ah bon, donc on va plutôt tourner le dos à certains scientifiques qui, eux, veulent en finir avec la foi judéo-chrétienne et on va revenir dans la simplicité de notre cœur à cette parole de Dieu. » Ensuite, je vais, rassurez-vous, ne pas vous tenir jusqu'à midi, mais le deuxième au commencement, c'est lequel? C'est dans Jean. Et voyez dans Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais vous entendez cela? Et cette parole est venue dans les ténèbres, la lumière est venue dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue, mais à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est une nouvelle créature instantanée. La sanctification, on en a pour toute la vie, on est d'accord? Mais la nouvelle naissance, c'est instantanée. Comme Dieu a créé en 6 jours, il recrée une personne dans la rue, chez vous, dans une église. On est en un instant une nouvelle personne. Et cette parole, c'est Jésus, la parole qui a été faite chair. Alors quand on ne croit déjà plus à cette parole dans la Genèse, qu'est-ce que ça devient au niveau du salut? Qu'est-ce que ça devient au niveau de la puissance de Dieu aujourd'hui pour son Église? Et cette parole faite chair, elle doit devenir en nous, quelque part elle doit s'incarner en nous. Christ est notre vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Jean 17:17, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Hébreux 4, c'est verset 12. Ta parole est une épée à deux tranchants, capable de séparer la moelle des os. Chers amis, béni soit Dieu pour les médecins. Béni soit Dieu pour des psychiatres dont nous avons parfois besoin, des psychologues, en espérant qu'ils ne soient pas opposés à la foi. Mais soyons honnêtes, il y a des chrétiens qui ont besoin, ont tant. Et moi-même, des fois, j'ai obligé une sœur à aller dans un hôpital psychiatrique. Elle m'en a d'abord voulu. Et après, elle me remercie depuis plus de 15 ans. Parce que je sais que quand on intervient tout de suite, des fois, on peut stopper une dérive. Alors que si on laisse des fois certaines dérives psychiques qui sont des maladies prendre racine comme une mauvaise grippe, ça peut prendre des mois et des mois. Et dans 2 situations où j'ai obligé une personne à aller dans... parce que je savais qu'il fallait intervenir... Bien sûr, on avait prié, les 2 sont sortis au bout d'une semaine. Et le psychiatre a dit merci d'être intervenu rapidement, voyez. Mais aucun psychiatre, aucun psychologue ne peut faire le travail de l'épée de la parole de Dieu. Aucun. Et si, comme chrétien, on croyait vraiment cela, on serait beaucoup plus à lire, étudier et aimer la parole de Dieu. Parce que elle fait ce travail intérieur de séparation du bien, du mal, de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste, de ses sentiments profonds, de ses angoisses, de ses colères, de tout ce monde intérieur. Et même, je dirais, on parle de l'inconscient. Eh bien, presque personne comprend vraiment ce qu'est l'inconscient. Cet inconscient qui fait que vous avez des rêves parfois fabuleux, puis des fois stupides. Mais notre corps est capable, dans l'inconscient, de fabriquer toutes sortes de trucs. Seule la parole de Dieu peut aller au fond de ces choses. Et pour cela, il faut l'aimer. Et ce qui est extraordinaire dans ce deuxième fondement, commencement, c'est que si on aime cette parole, si on laisse cette parole nous travailler comme une épée à deux tranchants, alors il est dit dans 2 Corinthiens 2, au chapitre 2 et chapitre 3, nous porterons la bonne odeur de Jésus-Christ et nous serons des lettres écrites. Et notre monde a besoin de la bonne odeur de Jésus. Notre monde a besoin d'être des lettres écrites. Et je termine par le troisième commencement. Savez-vous où est-il ? En Jean. Dans un Jean, oui. Et cela, pour moi, c'est le fruit des deux autres commencements. Quand on croit à ce Dieu créateur, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui délivre Israël de l'esclavage, qui nous délivre de l'esclavage, qui fait de nous des nouvelles créatures, qui fait de nous des personnes qui portent la bonne odeur de Jésus, qui sont des lettres écrites, et notre monde a besoin de cela, a besoin du peuple de Dieu. Eh bien, chers amis, il faut un Jean. Ce que nous avons entendu dès le commencement, et dans ce commencement il y a la Genèse et il y a Jean 1, ce que nous avons touché, ce que nous avons aimé, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons. Et je dirais, notre monde a besoin de personnes fondées sur ces deux premiers commencements, mais aussi qui débordent de feu, de joie, et qui ont envie de transmettre cette parole, de par le témoignage, par la prière. Chers amis, nous sommes entourés de personnes qui souffrent, de personnes qui sont engluées dans le péché d'une manière incroyable, mais qui souffrent beaucoup. Beaucoup sont malades, c'est désespéré, ça ne va plus dans les familles, ça ne va plus au travail. La vie est devenue extrêmement compliquée, au point que nous sommes au point aujourd'hui du pain et des jeux. Il faut que la distraction, il faut se nourrir, avoir de l'argent et se distraire. Chers amis, ils ont besoin d'hommes et de femmes comme vous, qui puissiez dire ce que j'ai touché. Dans ma vie, je peux en parler. Le Seigneur a agi dans ma vie. Il m'a libéré, il m'a délivré. Il me donne de la paix, il me donne de la joie. Quand je suis au fond du trou, il descend encore plus profond pour m'en sortir. Quand je suis comme David qui baigne sa couche de ses larmes, le Seigneur me relève. Quand j'étais dans des temps de dépression, il est venu me sauver, me secourir. J'ai un Seigneur vivant qui marche avec moi. Et ce que j'ai touché, et ce que nous voyons dans la Bible au travers du psaume 136, nous vous l'annonçons, nous vous le disons. Et quand vous avez terminé de dire ces choses, la personne qui s'est arrêtée, que vous connaissez ou qui est spontané dans la rue ou dans un magasin ou dans un restaurant ou dans la montagne ou dans un temps de loisir, en général, elle partage une souffrance. Et là, je vous encourage vraiment, priez pour cette personne. Elle ne va jamais refuser. C'est le plus qu'on puisse faire dans l'évangélisation, c'est de prier simplement pour une personne qui a partagé une souffrance avec vous. Si vous avez la liberté, une main peut-être sur l'épaule, soyez très prudent. Est-ce que vous me permettez de prier pour vous? Et vous savez, il se passe quelque chose. C'est comme quand on dit, est-ce que vous me permettez, si les circonstances le permettent, de lire avec vous une parole, le début d'un psaume ou une parole que vous aimez. Il y a quelque chose qui se passe, parce que c'est la parole de Dieu. Mais quand vous priez, moi je vois des personnes, elles sentent que là, vous vous adressez à Dieu. Cette personne est en train de parler à Dieu. Et là, il se passe quelque chose. Et j'ai vu tant de personnes pleurer, alors qu'elles disaient ne pas croire, qu'elles disaient leur incrédulité, leur non-foi des fois, dit moi je crois pas, ou comme cet homme, on a acheté une machine là pour toute notre œuvre, Seigneur en mission, un patron qui a remis son usine et qui souffrait beaucoup de pertes de mémoire. Et je dis, vous êtes croyant? Il m'a dit, à moitié. Je dis, ben, je vais prier pour l'autre moitié. Et il était tout à fait d'accord. Ou bien, et je vous l'ai dit, et je termine là, j'étais dans la montagne une fois et j'ai fait la connaissance d'un soldat qui devait faire des photos ce jour-là parce qu'il était blessé à une épaule. Et je lui ai parlé du Créateur, de Dieu. « Monsieur, je suis athée. » Bon. J'ai tenté une deuxième fois. « Je vous l'ai dit, je suis athée. » Bon. Alors après, il m'a offert un café. C'était sympathique. Et puis, avant de le quitter, je lui ai dit « Est-ce que vous me permettez de prier pour votre épaule ?»« Ah oui, merci beaucoup, monsieur. » Voilà les athées, n'est-ce pas? Quand on s'intéresse à eux et qu'on leur propose la prière, ils seront d'accord. « Seigneur béni, » ces chers frères et sœurs, bénis-les. Merci pour toute cette assemblée rassemblée. Bénis les familles représentées. Bénis-les dans toute leur journée, toute leur semaine, tout leur mois, quoi qu'ils fassent, qu'ils puissent être non pas un temps sur le mont Ebal et tout à coup dans la désobéissance avec les Gabaonites. Seigneur, fortifie-les, bénis-les. Notre monde a besoin d'eux. Ils ont besoin de ces hommes et ces femmes qui portent la bonne odeur de Jésus. Soyez remplis de l'Esprit Saint comme on l'a chanté. Soyez bénis et en bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse, l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen.